Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Parmi les nouveautés au cinéma aujourd'hui, des super-héros dans Les Gardiens de la Galaxie 2 et la vie de Django Reinhardt. On détaille tout ça dans un instant avec Stéphane Boutsock. Ce soir sur France 2, deux nouveaux épisodes de la série 10% avec notamment la participation très réussie d'Isabelle Adjani et un documentaire consacré à la Tour Eiffel sur C8. Ce seront les choix d'Isabelle Morini-Bosque. Dans Les Express de Laura Mauchi, Will Smith et Agnès Jaoui réunis à Cannes et l'animateur Georges Pernoud nous en dira plus sur son départ de Thalassa. Et puis, musique classique avec Charlotte Latour, le chef catalan Jordi Savall dirigera un opéra ce soir dans la capitale pour la réouverture de la magnifique salle de l'Opéra Comique.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Nous vous emmenons au cinéma pour commencer. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous. Ça vous fait rire déjà.
Oui, je sais pas, oui. Avant de passer en revue les nouveaux films, voyons ce qui a marché ou pas durant la semaine écoulée dans nos salles.
Grâce aux chiffres de nos amis du site cbo.fr, on va pas se le cacher, la semaine a été moyenne pour les nouveautés de mercredi dernier. Seul Sous le même toit de Dominique Farrugia tire et encore son épingle du jeu avec un peu plus de 250 000 entrées. En fait, les spectateurs ont préféré ce qu'on appelle les valeurs sûres. Fast and Furious 8 a atteint les 2 750 000 en 15 jours seulement et déjà 1 milliard de dollars de recettes mondiales. Le film d'animation Baby Boss a dépassé les 2,3 millions en un mois et La Belle et la Bête est largement au-dessus des 3 millions.
Du côté des sorties, Stéphane, de ce 26 avril, il y a du super-héros dans l'air avec Les Gardiens de la Galaxie 2, personnages tout droit sortis de l'univers Marvel.
Ouais, mais qu'il faut regarder comme des cousins un peu barrés, excentriques. Le ton des Gardiens de la Galaxie est plus pop, plus kitsch, moins calibré que celui des Avengers, par exemple. Le premier film en 2014 avait été un carton inattendu, mettant en scène une bande de chasseurs de primes intergalactiques composée par Peter Quill, un leader humain, mais aussi d'un raton laveur, d'un arbre vivant et autres créatures bizarres. Les revoici donc, cette fois embarqués dans une aventure toujours aussi périlleuse. Ils sont en gros poursuivis par un peuple extraterrestre à qui ils ont volé quelque chose de précieux, mais également confrontés au papa de Peter, l'humain, qui s'avère être un dieu totalement méga. Alors, Les Gardiens de la Galaxie 2, c'est un film totalement jouissif, régressif, violent, grossier, attention pour les plus jeunes, bourré de vannes stupides et de second degré.
On y croise. Envie, hein.
Mais il faut y aller, allez-y, oui, je vais vous convaincre. On y croise Chris Pratt, Zoe Saldana, Kurt Russell, Sylvester Stallone. Et si vous allez voir le film en VO, vous entendrez la voix de Bradley Cooper, qui double le raton laveur, et Vin Diesel également. Et puis, il y a une nouvelle venue. Pomme Clémentieff, qui est une jeune femme aux origines franco-québéco-russo-coréennes. Elle interprète Mantis dans ce second volet, un alien étrange qui va s'allier aux gardiens. À 30 ans, c'est un rêve d'actrice qui se réalise.
Et souvent, les rôles féminins sont assez similaires dans ces films-là. Ils sont forts, sexy, tueuses, machin. Et ce rôle-là, je trouve, est vraiment complètement différent. Donc je trouve ça intéressant aussi. Mais c'est sûr qu'on devait mettre des antennes sur la tête, on devait mettre des lentilles de contact noires dans les yeux, et donc ça couvre l'œil complètement. Ça rend un peu claustro. Enfin, moi, je suis pas claustrophobe, mais c'est vrai que ça me mettait un peu dans ma bulle, et je pense que c'était pas mal pour le personnage aussi. Pour moi, ce personnage-là, c'est un personnage qui est innocent et qui découvre les choses pour la première fois. Et non, c'était génial de tourner aussi Avengers et de tourner avec Robert Downey Jr. Et tout ça, c'était vraiment super de mélanger ces mondes-là, de mélanger le monde des Gardiens de la Galaxie et aussi les personnages de Marvel, de Avengers qu'on connaît déjà, quoi. Belle.
Eh ben oui, parce que Pomme Clémentieff, qui est jolie, donc vous nous le confirmez,
vous allez voir sur Internet, elle est même très très belle.
Jolie jeune femme. Pomme Clémentieff sera aussi dans le prochain Avengers, dans lequel les gardiens de la galaxie vont trouver une petite place. Un mot de la BO du film aussi, parce qu'une nouvelle fois, les producteurs sont allés puiser dans les trésors de la pop, du funk et du folk, comme ce bijou de 70, signé Cat Stevens. How can I try to explain when I do? Turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk. Father and Son, titre qui colle parfaitement au thème de ces Gardiens de la Galaxie numéro 2, père et fils. La BO du premier film en 2014 avait une des meilleures ventes de disques de l'année aux États-Unis. La BO est vraiment parfaite.
Et puisque nous parlons de super-héros, Stéphane, vous nous parlez ce matin du label RTL Super, disponible sur notre site rtl.fr.
RTL Super, comme son nom l'indique, est un espace de jeu dédié à ce qu'on appelle la pop culture et ses héros au cinéma, dans les séries, le jeu vidéo, la bande dessinée, au programme des portraits, des infos, le décryptage de cet univers de plus en plus populaire à travers des films comme Les Gardiens de la Galaxie 2, également Alien qui arrive bientôt, mais aussi Wonder Woman ou Spider-Man qui arrive sur les écrans cet été. RTL Super à découvrir donc sur notre site web rtl.fr.
C'est super. On passe au cinéma français, Stéphane, avec l'événement de la semaine, Django, d'Étienne Comard avec Reda Kateb dans le rôle de Django Reinhardt.
Alors, film intéressant parce qu'il se concentre sur quelques années de la vie du guitariste Manouche durant la Seconde Guerre mondiale. Il est une star du musical dans le Paris occupé par les nazis, lesquels lui proposent une tournée en Allemagne. Et c'est à partir de ce moment que Django Reinhardt va prendre conscience du péril du Troisième Reich, notamment pour le peuple tzigane, et abandonner sa neutralité, qui était aussi, on le voit bien dans le film, de l'indifférence. Alors avec sa famille, il tente de passer en zone libre, mais les Allemands vont le traquer. Le film est un portrait juste, sans concession, hein, vraiment, de Django, avec ses failles, ses faiblesses. Il prend vraiment toute son ampleur dans la dernière partie et doit beaucoup à l'interprétation habitée de Reda Kateb, lequel a dû travailler durement pour incarner un guitariste virtuose et l'icône de la communauté manouche.
C'est vrai que c'était un peu les deux pressions qui pesaient sur chacune de mes épaules. Que les musiciens croient que je suis musicien, que je suis guitariste et que je joue comme Django Reinhardt. Et que les manouches, les tziganes, croient que je suis tzigane. Et à partir de là, j'avais plus vraiment à m'embêter avec des choses de crédibilité, d'imitation, etc. Si ce n'est quelques indices sur voilà, comment était Django, que j'avais pu recueillir à droite à gauche, ou de temps en temps un peu d'inconscience, beaucoup d'excitation pour le projet, et de temps en temps des grosses montées de track. Et je me suis accroché à ma guitare, qui était l'élément le plus concret, le manche de ma guitare auquel je pouvais m'accrocher, et j'ai passé un an scotché à elle.
Mais aussi Cécile de France et de formidables comédiens de tzigane à l'affiche de Django, avec aussi la musique jouée évidemment par l'artiste, comme ces yeux noirs que l'on entend. Autre film à voir cette semaine, À mon âge, je me cache encore pour fumer, qui nous entraîne dans la vapeur d'un hammam réservé aux femmes musulmanes, série de portraits qui parlent d'amour, de sexe, de violence, d'interdit, de liberté, de religion et des hommes. Des moments intimes très forts mis en scène par Rehana Obermeyer, franco-algérienne, qui dénonce depuis toujours le match au Maghreb, expliquant aussi au passage que l'islam, quand on le respecte, peut en éviter les dérives.
On termine avec les comédies de ce 26 avril, Stéphane, et tout d'abord, jour J de, comment on prononce, Rim Kérissi ?
Absolument. Voilà. Un petit peu de Very Bad Trip, un peu de Marie à tout prix, et au final, beaucoup de peps pour ce film qui raconte comment une organisatrice de mariage va devoir s'occuper de celui d'un garçon avec qui elle a couché un soir de beuverie.
Oui,
ça arrive. Bah, oui. Tout le monde ne sera évidemment pas à la noce, et surtout pas la future mariée, qui, écoutez, va vite sentir que quelque chose ne tourne pas rond.
C'est qui cette Juliette ?
C'est qui ?
Cette fille, d'où tu la connais ?
Ah, je sais pas, c'est qui ?
Non ? T'as sa carte dans la poche ?
Bah non, fais voir, je la connais pas.
T'as sa carte dans la poche et tu la connais pas ? Tu te fous de ma gueule ?
Non, mais je sais pas, j'ai peut-être dû arriver là par hasard. Hein.
Elle est arrivée là par hasard ?
Oui.
Ah, tiens donc.
J'ai peut-être. Frère, j'ai pas écrit un truc dessus, non ?
Non, t'as rien écrit dessus. Alors, à moins que ce soit dans un endroit illisible, par exemple sur les tout petits rebords là, mais tu vois, je ne vois rien.
Ouais.
Bon, donc d'où tu la connais ?
Bah, je sais pas, c'est peut-être juste une fille qui.
Bon. C'est une fille qui est wedding planner, voilà, c'est une fille qui organise des mariages. Et
organise de mariage, quoi.
Mon Dieu. On va se marier. Ah, mon amour, c'est pour ça que tu voulais pas que je vois la carte de visite.
Bah oui,
tu voulais pas que je vous ai ta surprise.
Eh ben,
oh, mon amour, mais oui, je veux. Ah, oh, oui, je veux. On va se marier.
Oui.
Eh oui, sauf que ça va un tout petit peu se gâter. Rim Kérissi, Nicolas Duvauchel, François-Xavier de Maison et Julia Piaton épatant dans Jour J, écrit notamment par Philippe Lachaud. Vous savez, Philippe Lachaud, c'est le créateur de Babysitting ou de Alibi.com qui a du savoir-faire et qui surtout a la cote en ce moment. Il a un petit rôle dans le film. Mm-hmm. Autre comédie, alors là, je suis passé vraiment à côté, ça s'appelle Aurore de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui. Énième portrait d'une cinquantenaire soumise aux aléas de la vie, au temps qui passe, au désir qui s'est enfui et à une possible renaissance. sens. Il y a de bons dialogues, Agnès Jaoui toujours impeccable, mais un vrai sentiment de déjà-vu. Et puis alors surtout une mise en scène tellement plan-plan que pour moi, elle a fini par tout gâcher.
Avec un cité de Redon, alors.
Et une couette. Je voudrais terminer par un coup de cœur pour un film espagnol qui s'appelle La colère d'un homme patient de Raúl Arévalo. Implacable étude sur la vengeance, celle d'un homme dont la femme a été tuée lors d'un hold-up et qui va attendre la sortie de prison du meurtrier des années après pour régler ses comptes. Il n'y a pas de fioriture, hein. On va à l'essentiel. Il y a une touche de Tarantino assez prononcée et beaucoup de caractère. Un thriller qui a été couvert de prix en Espagne et qui a remporté le prix du jury et de la critique au dernier festival du film policier qui s'est déroulé à Beaune.
Il y a du très bon cinéma,
oui,
en Espagne.
Hein. Absolument.
Dans quelques instants, on se retrouve pour nos audiences. On va même le faire tout de suite,
oui,
à 9h11,
oui,
voilà. Avec Isabelle Morini-Bosque, oui, et Médiamétrie. Isabelle, je vous écoute.
C'est comme vous voulez. Eh bien, écoutez, les beaucoup de personnes devant le poste hier, mais très réparties. Alors, il y a 4 chaînes qui rassemblent plus de 3 millions de téléspectateurs. TF1 avec Marine Le Pen en invité spécial, 3 610 000 téléspectateurs et 15% du public. C'est pas un très fort score. En deuxième position, France 3 avec une rediffusion, L'île aux femmes, 3 400 000 téléspectateurs. En troisième position, Planète Animale sur la 2, c'est pas mal du tout. 3 200 000 personnes étaient devant et 13% du public. Et enfin, Maison à Vente qui décidément résiste de façon inoxydable. 3 100 000 devant Stéphane Plaza. C'est là aussi 14% du public quasiment. Et côté TNT, c'est C8 avec Bracaz à l'anglaise qui est en tête. 1 100 000 personnes étaient devant.
Merci. On se retrouve dans quelques instants pour notre soirée télévisée. Auparavant, nous aurons retrouvé Laura Maucci pour nos express du jour. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Ce matin, nous sommes pour nos Express avec Laura Maucci. Bonjour Laura.
Bonjour à tous.
Bonjour Laura.
Non, attendez.
C'est pas l'habitude, c'est un nouveau casting. Si vous voulez.
On refait. Ce matin. Oui, générique.
Les Express LVT.
Les Express de Laissez-vous tenter avec Laura Maucci. Bonjour Laura.
Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour Laura.
Bonjour Laura. Ah, c'est, bon, c'est pas encore parfait, mais... Alors, on va commencer ces Express par une confidence.
Et oui, celle de Georges Pernoud. On l'a appris vendredi dernier, le créateur et animateur historique de l'émission Thalassa sur France 3 annonçait son départ après 42 années à l'écran. Pour la première fois, il prend la parole. Il s'est confié à vous, Isabelle Morini-Bosque, qu'il vous a expliqué pourquoi.
J'ai décidé. Pour deux raisons. D'une part, ça fait 40 ans que je fais ça. La deuxième chose, c'est qu'il existe la loi Sarkozy en ce qui concerne la retraite. Un employeur peut vous virer d'un seul coup à 70 ans, ce que j'aurai en fin d'année. Là. Donc j'ai préféré prendre les devants. Disons que l'ambiance à France Télé, enfin à France 3, a changé. Disons que les rapports sont difficiles.
Vous l'avez compris quand Thalassa est devenue mensuelle ?
Oui, parce que ça, c'était peut-être un bon calcul pour elle que de récupérer 3 budgets. Mais c'est pas bon pour les téléspectateurs qui m'interpelle dans la rue pour me dire « Mais c'est quand alors, Thalassa ?» Parce que quand on dit qu'on passe en mensuel, c'est pas obligatoirement le premier lundi du mois. C'est comme ça les arrange, quoi.
Les confidences de Georges Pernoud.
On passe désormais du petit au grand écran, Laura.
Avec la composition complète du jury du Festival de Cannes, le président Pedro Almodovar sera entouré de 4 hommes et de 4 femmes, dont une Française, Agnès Jaoui. Jessica Chastain, Will Smith ou encore le compositeur Gabriel Yared seront aussi en charge de décider du palmarès. Plus beaucoup de temps à attendre, le Festival de Cannes, c'est du 17 au 28 mai.
Il faudra attendre un peu plus de temps, en revanche, pour voir les suites de films cultes au cinéma. Hein.
Mai 2019 pour la sortie de l'épisode 9 de Star Wars, mais aussi...
Hakuna Matata.
Exactement, juillet 2019 pour une nouvelle version du Roi Lion en chair et en os, et ça on va adorer. Et juillet 2020, 3 ans à patienter avant de foncer voir le 5e volet d'Indiana Jones dans les salles obscures.
Alors, c'est une info RTL, Valérie Trierweiler va faire son grand retour. Faut que je tourne ma page en librairie, excusez-moi. Je suis vraiment, alors moi c'est lamentable pour tourner les pages.
Exactement,
en librairie le mois prochain.
Mais rien à voir avec son livre précédent, Merci pour ce moment, dans lequel la journaliste ex-compagne de François Hollande racontait sa relation amoureuse avec le président. Dans Le secret d'Adèle, Valérie Trierweiler évoque cette fois-ci l'histoire d'amour entre le peintre autrichien Gustav Klimt et Adèle Bloch-Bauer, qui lui a inspiré l'un de ses plus célèbres portrait, La Dame en or, peint à Vienne en 1910. Le secret d'Adèle paraîtra le 17 mai chez le même éditeur que Merci pour ce moment, les éditions Les Arènes.
On en profite pour jeter notre coup d'œil hebdomadaire sur le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express.
Du côté des romans, Un appartement à Paris de Guillaume Musso devance Le tour du monde du roi Zibeline de Jean-Christophe Ruffin. Et Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Dans la catégorie essais et documents, Jean-Luc Mélenchon fait mieux que dans les urnes. Il il classe à la première et à la troisième place deux ouvrages, L'avenir en commun et De la vertu. À la deuxième se glisse La vie secrète des arbres de Peter Vollelen. Et à la quatrième se glisse le nouveau livre de Philippe Labro, Ma mère, c'est inconnu.
Palmarès complet à retrouver, bien entendu, dans les colonnes de l'Express. Merci Laura Maucci. Allez, générique. La télévision ce soir, avec retour du feuilleton 10% sur la 2, moins suivi que l'an dernier pour l'instant.
C'est vrai, 3 200 000 personnes mercredi dernier contre 4 800 000 au démarrage en 2015. Il faut tout de même attendre le résultat du visionnage à J+7 qui peut aller jusqu'à 800 900 000 téléspectateurs en plus, ce recours étant nettement moins pratiqué il y a 2 ans. Pas exclu aussi, c'est vrai, qu'on ait surestimé l'intérêt du public pour les coulisses du showbiz parisien. Faites-vous une idée ce soir, pas besoin d'avoir vu la semaine dernière pour suivre ce soir, avec 2 épisodes montrant toujours très bien le quotidien d'agents de stars, touchant donc 10% des contrats de leurs clients. On retrouve ainsi Andrea qui commence l'épisode en recevant un top modèle, 1m90 au garrot, qui se la pète un tantinet.
Merci d'être venu. Je sais que c'est pas évident pour vous. En plus, en pleine Fashion Week, avec tous ces défilés qui s'enchaînent.
Je défile pas.
Ah pardon, je pensais, comme vous êtes mannequin.
Je suis pas mannequin. On paye pour porter des vêtements, c'est tout.
Mais vous posez dans pas mal de magazines.
Je pose pas, je collabore avec des artistes photographes.
Et oui, bien sûr.
Côté célébrité, il y aura ce soir le youtubeur Norman qui doit avoir son permis pour jouer dans le prochain Audiard, ou encore Julien Doré qui fait un peu de cinéma en préparant un film écolo-végétal avec sa compagne Charlotte Lebon, sauf qu'il préfère finalement faire tourner Sophia, la copine de son agent Gabriel, lequel Gabriel, un ange, n'est pas rassuré de le voir surcôtoyer Julien Doré.
Ouais, Gabriel.
Ouais, salut Julien, ça va? Et qu'est-ce qui se passe sur Lola Darling, là? C'est pas Charlotte Lebon qui devait le faire avec toi?
Non, on s'est séparés.
Hein?
Ouais, non, mais c'était devenu trop violent. Elle critique tout ce que je fais depuis un an. Mais t'inquiète pas, parce que grâce à toi, j'ai rencontré Sophia.
Et c'est elle que je veux.
Tu vois, elle a tout. C'est une grosse charnelle. Alors moi, ce que je veux, c'est un érotisme, mais pop. Et Sophia, elle est royale. Elle a le sexe royal.
Ouais, super, je te rappelle. Hein.
Et voilà. Le plus de ce soir, c'est Isabelle Adjani, délicieuse, en icône, désireuse de tourner avec un cinéaste tendance. Et comme tous les clients, Isabelle attend tout le temps de son agent, y compris une écoute absolue sur tout.
Et là, la petite, elle devient aveugle. La grande idiote meurt. Mais de toute façon, elle va pas me manquer parce qu'elle était tellement cruche. Et le frère, le beau ténébreux, il le tue.
Non.
Ça, je l'en veux beaucoup.
Ah oui, non.
Vous pourriez me trouver rapidement la prochaine saison? Ça va faire long si je vais attendre un an pour voir la suite.
Très bien, je m'en occupe, oui. Vous pouvez me rappeler le titre?
Game of Thrones. Et nous, Mathias, d'une grotte.
Voilà, pardon. La suite ce soir à 20h55.
Alors vous avez aussi craqué pour un nouveau film documentaire?
Absolument, sur C8, ça s'appelle Monument, comme le nom l'indique, on va se pencher sur des monuments célèbres dont on va raconter l'histoire, c'est passionnant.
Ça,
on commence par la Tour Eiffel, érigée en 2 ans, 2 mois et 5 jours, née de l'envie de 2 jeunes ingénieurs de bâtir la plus haute tour pylône du monde, 300 mètres, le plus haut monument étant alors l'obélisque de Washington, 169 mètres, devant quoi? Devant la cathédrale de Rouen, 151 mètres. À qui portait leur projet? Eh bien à Eiffel, déjà très célèbre pour le plus haut viaduc du monde, celui de Garabit, 120 mètres, et pour l'intérieur de la Statue de la Liberté, alors en construction.
On a Paris, hein.
Eiffel est, moi non plus, Eiffel est intéressé, mais n'aime pas ce côté pylône. Il change d'avis quand un troisième jeune ingénieur ajoute 2 étages et 4 pieds d'éléphant. Là, il voit brusquement le parti en tirer. Ils vont d'ailleurs lui céder tous les droits. Lui qui vise l'expo de 1889 pour le centenaire de la Révolution, son rival Bourdet, célébrissime lui pour les palais de Trocadéro, a lui aussi une tour avec des paliers, avec des chambres de malades pour qu'ils s'oxygènent, mais elle est en pierre.
Un monument en fer à Paris, ça paraît aux architectes impossible et horrible, enfin vraiment, c'est vulgaire le métal.
Le fer n'est pas un matériau noble dans les années 1880, c'est le matériau de la modernité, c'est le matériau de l'industrie, c'est le matériau qu'on va retrouver dans les gares, dans les hangars et dans les usines.
L'immense chance de Gustave Eiffel, c'est d'avoir dans sa manche le puissant ministre Lecroix qui va tranquillement réécrire tout le règlement du concours pour avantager Eiffel. Il exige que ce soit désormais une tour de fer de 300 mètres avec 4 pieds, un historien raconte.
Dans les données du concours, il dessine exactement le plan qui est le plan de la Tour Eiffel. Bref, le concours est un concours bidon.
Et bah, du coup, ils vont tous cloner Eiffel. Il y en a un qui imagine une tour Eiffel sur la Seine, une autre dans un autre endroit de Paris, mais elle c'est exactement identique. Et Eiffel exige d'être à l'entrée de la future exposition et non pas au Mont Valérien. Et c'est parti pour une construction qui va devenir un calvaire entre grève, ennui technique, souci. Ah, bah tiens, j'ai perdu la suite de ma feuille. Oh, bah souci, il va être très vite, comme le budget de la tour Eiffel, complètement dépassé. Mais alors, ne loupez pas cette émission qui va vous montrer que malgré tous les ennuis, malgré le calvaire qu'il va vivre, Eiffel y croira toujours dur comme fer, évidemment.
Bravo, c'était Isabelle Morini-Bosque, sans texte. Dans quelques instants, on vous emmène Salle Favart pour la réouverture de l'Opéra Comique à Paris.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
9h23, bonne journée à l'écoute d'RTL. Un lifting à 17 millions d'euros, ce n'est pas donné, mais ça valait le coup. Alors après de longs mois de fermeture, l'Opéra Comique rouvre ce soir et s'offre une nouvelle jeunesse avec une programmation prometteuse. Bonjour Charlotte Latour.
Bonjour.
Vous avez joué à l'inspecteur des travaux finis. Elle a quelle allure alors cette salle maintenant?
Un vrai petit bijou. L'Opéra Comique se trouve dans le 2e arrondissement de Paris, pas très loin de l'Opéra Garnier auquel il ressemble pas mal. Également appelé Salle Favart, il contient 1250 fin places et a été inauguré en 1783 en présence de Marie-Antoinette. Ça, c'est pour l'histoire ancienne. Et d'ailleurs, c'est aussi là qu'un siècle plus tard, en 1875, Carmen de Bizet fut donnée pour la première fois. Histoire contemporaine du lieu, il n'y avait eu aucun gros travaux depuis 1969. Alors ceux qui viennent de s'achever, mise en conformité, accessibilité, restauration, ont duré presque 2 ans. Ça sent encore un petit peu la peinture quand on y entre. Olivier Manteil est le directeur de l'Opéra Comique depuis 2015.
Dans la salle, il y a 850 bouches d'aération qui sont apparues avec des gaines qu'on ne voit pas pour aérer, ventiler, rafraîchir. On avait très chaud dans cette salle. Tous les ornements ont été refaits, statues, tentures. On a retrouvé le rouge Favart, rouge historique que l'on voit dans le foyer sur certaines peintures. On a redonné de la lumière à tous les luminaires qui étaient là sans fonctionner parfois. On a refait la couronne d'ampoules qui entoure le plafond de Constant. Je crois que c'est un bel éclat.
2,5 km de gaines d'aération ont été créées. Pas de climatisation, hein, bien sûr, dans un tel lieu, parce que la clim fait mauvais ménage avec les instruments et les voix des chanteurs. Du rouge, du turquoise, du doré, toutes les peintures, sculptures et mosaïques ont retrouvé leur lustre d'antan sans être clinquants. Et pour la réouverture ce soir, le chef catalan Jordi Savall inaugure cet écrin musical avec une œuvre rarement donnée, Alcyone, de Marin Marais.
Alors, il le connaît bien, ce Marin Marais. Si je me souviens bien, Jordi Savall a signé la bande originale du film d'Alain Corneau, Tous les matins du monde, qui retraçait évidemment la vie du compositeur.
Absolument, c'était en 1991. Jordi Savall dirige énormément, mais pas d'opéra d'habitude. Celui-ci, c'est son premier. Alcyone, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se marie mais dont le mari lui est arraché par un amant jaloux. Elle est interprétée par la très douée Léa Desandre, 24 ans, récompensée lors des dernières victoires de la musique classique. Elle a reçu la victoire de la révélation artiste lyrique. Autour de Léa Desandre sur scène, toute la jeune génération de voix baroque, le ténor Cyril Ovitti, le baryton Marc Moyon et une mise en scène originale faite de cordages tendus depuis les cintres au-dessus de la scène avec un groupe d'acrobates qui se baladent dessus comme des marins entre les mâts de vieux gréements. L'effet est bluffant et l'idée de mêler le cirque à l'opéra, génial. Mélanger les arts dans les prochains spectacles, c'est justement l'objectif d'Olivier Manteil.
On va essayer de respecter un peu l'identité de la salle et de son répertoire, opéra français, opéra comique, alternance de parler chanté, avec à la fois des œuvres rares comme le timbre d'argent de Saint-Saëns qu'on n'a jamais donné, des choses plus connues et puis des créations contemporaines, car un théâtre qui n'en fait pas est un théâtre qui se meurt, qui ne se repose que sur son répertoire existant. Une flûte enchantée parce que c'est le premier finalement opéra comique, production qui nous vient de Berlin, qui a fait le tour du monde. Voilà, c'est assez varié.
Là, ce qu'on entend, c'est l'orage, la tempête qui emporte l'amoureux d'Alcyone. Vous savez comment on obtient le bruit du vent hein, à l'opéra avec un héliophone, un instrument typique des opéras du XVIIe siècle. C'est une sorte de tonneau en bois recouvert de métal qu'on frotte pour imiter le souffle du vent. Pour le tonnerre, on utilise une plaque métallique qu'on secoue. Voilà, avec ces traditionnelles machineries de théâtre, dans la fosse d'orchestre, comme sur scène. Et dans la salle, tout est réuni pour respecter au mieux la musique des XVIIe et XVIIIe siècles. La rénovation de la salle Favart a tout bon.
Vive l'Opéra Comique, on est ravis de cette réouverture et c'était merveilleux d'entendre même ces bruits dans les coulisses. Ça fait rêver, c'est ça le spectacle. Merci beaucoup Charlotte Latour, merci à toute l'équipe. Dans un instant, on accueille Julien Courbet. Passez tous une très belle journée à l'écoute d'RTL, puisque vous retrouvez Julien Courbet. Bonjour Julien.
Comment allez-vous Yves Calvi ?
Très bien, merci.
Bien, il faut s'appeler maintenant, j'aime bien quand les gens appellent par le nom et le prénom.
Oui, vous
le
voulez.
Matin. Écoutez Madame Elisabeth Martichoux, monsieur, écoutez oui. Monsieur Yves Calvi. Oui. Bon, il y a Maître Noakovitch qui est là et Maître Felonneau va nous un point circulation car elle arrive à l'instant et c'était très chargé.
C'est le bazar.
Regarde, elle est toute essoufflée.
Expliquez-nous ce qui s'est passé.
Bah, une heure et demie pour venir au lieu de 40 minutes, oui, ça me...
Et oui, parce qu'elle est passée par chez Jacques et après elle a été dépannée Jean-Pierre avant d'arriver. Alors des petits conseils juridiques, évidemment.
Bah, évidemment.
Avec une tenue, vous avez vu, de safari. Ah non, on a une équipe vraiment formidable.
Bon, moi, je vous laisse nous faire un beau Daktari.
Eh bien, merci. Daktari, avec le lion qui louchait.
Mais
le
oui.
Clarence. Et Chita.
Oh, Chita. Elle était un peu limitée, Chita.
Oui, mais on comprenait. C'est marrant parce qu'il était quand même fort, ce Daktari. Elle fait... Oh, Chita, je sais bien qu'elle aurait dû rémalgarer.
Elle était un peu conne, Chita.
Ouais, elle était conne, Chita, oui. C'était elle est très bonne, celle-là.
Mais elle avait une fort belle denture, je me souviens.
C'est vrai. Hein, elle avait quelques chicots, comme on dit. On se retrouve demain. Salut, mon Yves.
Allez, à demain, on vous embrasse.